Salut, je m'appelle Mathilde Piton et vous vous apprêtez à écouter un nouvel épisode de What's Next, le podcast des trajectoires de vie non linéaires. Quand je prépare un épisode de podcast, je me renseigne sur la personne, je lis ce qu'elle a écrit, j'écoute, cherche des informations. Une trame de l'interview se dessine dans ma tête via une série de questions qui me permettent de cadrer la conversation. J'imagine où ça va aller. Mais j'aime aussi me laisser surprendre, rebondir sur ce que mon invité a à me dire vraiment, à l'instant T, pas juste suivre un script que j'ai imaginé à l'avance. Avec Anouchka, on est parti d'un post sur l'âge qu'elle a écrit sur Instagram, un post qui me rappelait les thématiques de la newsletter What's Next, arrivée dans la quarantaine, presque, et se demander où on est dans sa vie. Mais finalement, notre conversation nous a aussi amené à parler du handicap. Anouchka est maman d'un petit garçon de 7 ans qui est autiste. On a parlé de thérapie pendant un moment, on a parlé de la vie à Bruxelles après avoir vécu à Washington aux États-Unis et puis à Londres. C'est seulement après tout ça qu'on a parlé de sa trajectoire de vie non linéaire côté professionnel et de sa carrière dans la communication. On a aussi parlé de diversité au travail. On a terminé par parler à nouveau du lieu de vie et notamment d'expatriation en Belgique. Je vous avouerai que c'est quelque chose que je trouve assez étrange de dire expatrié en Belgique, je vous dirai pourquoi. Et on a terminé sur le yoga parce que c'est ça qui nous a rapprochés il y a plus de 10 ans, Anouchka et moi, c'était le yoga. Alors voilà, c'est ça la beauté de What's Next, ce sont des histoires personnelles, celles de mes invités ici dans le podcast, la mienne que je déroule au fil d'essais personnels et autres articles dans la newsletter hebdomadaire à laquelle vous pouvez accéder sur whatsnextmathilde.substack.com tous les vendredis matins. Pour vous qui aimez les histoires, les interrogations métaphysiques plus ou moins sérieuses sur le travail, l'âge, la parentalité, l'amitié, les relations au corps aussi, par exemple, c'est tout ça, What's Next. C'est ce podcast qui est là pour vous donner envie de vous abonner peut-être à une formule payante pour accéder à tous ces contenus. Vous pouvez choisir une formule gratuite, juste pour voir, mensuelle aussi, une fois comme ça, pour se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe là dans What's Next, ou annuelle qui vous donnera accès à tout, y compris l'atelier d'écriture une fois par mois. C'est à vous de vous poser et de raconter vos propres histoires pendant cet atelier d'écriture dans des prompts que je vous ai soigneusement concoctés. Le prochain a lieu le mardi 25 juin. Le thème, ce sera la nature, nature writing. Bon, ce sera en français. Restez connectés sur What's Next Mathilde sur Instagram pour savoir quand auront lieu les prochains. Voilà, What's Next, c'est le lieu des histoires personnelles qu'on raconte. Place à présent à ma conversation avec Anouchka. Il y a quelques jours, je lisais sur Instagram la légende d'un post d'Anouchka, d'un post Instagram qui commençait par ces mots. Parfois, je me dis que je devrais trouver le temps de créer de nouveau du contenu sur la vraie vie quand on approche doucement de la quarantaine. On en parle peu, mais la vie est complètement différente entre le début de cette décennie et la fin. J'ai plus 30 ans et c'est passionnant. T'as quel âge, Anouchka ?
Je vais avoir 38 ans en octobre.
Et c'est vraiment passionnant de plus avoir 30 ans.
Ouais, parce que je trouve que c'est la décennie où il se passe le plus de choses pour entre 30 et 40 ans, dans 2 ans et quelques. Il se passe énormément de choses, en fait. C'est, je trouve, une décennie où tu commences, en fait, en tant que, si on peut dire, jeune adulte, mais presque. Et puis, tu finis avec beaucoup plus, et bon, c'est mon cas personnel, beaucoup plus de bouteilles. Beaucoup plus de valises derrière toi, beaucoup plus de trucs casse-gueule, en fait beaucoup plus de tout, et c'est ça que je trouve, je trouve que c'est super passionnant.
Et toi, tu te sens comment? Alors c'est la même question, mais dans l'autre sens. Tu te sens comment alors à l'approche de ce qu'on appelle en anglais la midlife, le milieu de
la midlife. Et en fait, écoute, il faut jamais dire jamais, donc je crois pas faire une midlife crisis, mais on dit jamais. Ouais. Je vais rester prudente sur le sujet. Je me sens beaucoup mieux. Je me sentais déjà bien à 30 ans, parce que j'avais l'impression d'avoir un peu un océan des possibles, et je me sentais assez bien dans mes pompes. Et à 40, je me sens super, bientôt, à 38 ans, super sereine. Ça, c'est vraiment le mot, quoi. Super sereine.
Mais tu sais, pour la midlife crisis, je viens d'écouter un podcast sur le sujet du New Yorker qui dit qu'en fait, il y a des nouvelles formes de midlife crisis. Et ce n'est pas nécessairement le truc qu'on imagine des années 50 de sortir du cadre et tout ça. Donc, pour en reparler, moi, j'ai l'impression de connaître une version patchwork de toi. par la lecture de ton blog que tu as tenu pendant longtemps qui s'appelle Bio Beau Bon, parce que je te suis sur Instagram. Donc, j'ai une sorte de portrait robot que je vais te dire et tu vas me dire si c'est juste. Je pense que c'est juste. Tu vas peut-être te présenter aussi. Donc, tu vis à Bruxelles.
Ouais.
Tu aimes le yoga.
Ouais.
Tu aimes les voyages.
Uh-huh.
Tu as longtemps parlé d'endométriose.
Oui, exact.
Tu as un petit garçon qui est autiste.
Oui, qui a 7 ans, oui.
Qui a 7 ans. Et, mais au-delà de ce portrait robot dans tes propres mots, qui es-tu, Anouchka? Comment est-ce que tu te présentes quand tu rencontres quelqu'un?
Je ne sais pas rentrer par l'angle du boulot tout de suite. Eh bien, écoute, donc, je suis une femme de 38 ans qui a vécu dans plusieurs pays, qui arrive à Bruxelles il y a 6 ans. Je suis française, je pense que je suis partie de France il y a 12 ans. Je fais un passage aux États-Unis, quelques temps à Londres et maintenant à Bruxelles. Donc, j'ai un petit garçon de 7 ans, donc je suis aussi une maman autiste. Et donc, je travaille aussi, pour finir sur l'angle du boulot, dans l'univers du, j'allais dire, du digital, de la communication, des médias, depuis maintenant, pareil, pour pratiquement 15 ans. Ouais.
C'est important de dire que tu es maman d'un petit garçon autiste, pas juste de dire que tu es maman d'un petit garçon.
Écoute, ouais, c'est quand même complètement différent et je m'en rends compte quand même au quotidien sur le fait que mon quotidien est quand même très différent. Je vais te donner un exemple aujourd'hui. On se parle ce soir, enfin ce soir pour moi, matinée pour toi. Il est allé lui à l'école, j'ai récupéré et je l'ai emmené sur son deuxième rendez-vous de la semaine thérapeutique. Il y en aura 5 cette semaine, plus mon boulot full-time, tu vois, plus. Nos moments à nous, plus plein de choses. Et donc, évidemment, ton quotidien n'est évidemment pas le même, en fait. Les préoccupations ne sont pas les mêmes. Donc, c'est pour ça que moi, je parle beaucoup de parentalité et d'autisme aussi, parce que je pense que c'est important, tu vois, de montrer aussi, de mettre en avant des profils colémiens qui existent et qui sont un peu rares, parce que ça ne devrait pas l'être. Mais quand tu as décidé d'avoir une carrière, ton ambition et un gamin en situation de handicap en même temps, en fait, et t'es une femme, c'est super rare. Je vais te mettre, très rare.
Moi, j'ai une de mes sœurs qui a un enfant qui est dyspraxique et elle s'est arrêtée de travailler pour l'emmener dans tous ses rendez-vous.
Bah oui.
C'était
clairement.
Un job à plein temps.
Oui, ouais, c'est rare. Hein. C'est rare, c'est pesant. Enfin, c'est un challenge énorme parce que généralement, ouais, tu as un des deux parents, souvent évidemment les mères, qui s'arrêtent de bosser pour que leurs enfants ils aient un bon suivi. Quoi. Donc, complètement.
Mais quand tu me dis 5 rendez-vous, c'est vrai que je trouve ça énorme. Quoi.
Alors, l'organisation, je la fais très courte. Donc, moi, j'ai mon fils une semaine sur deux. Donc, j'ai une semaine qui est évidemment focus sur lui, c'est-à-dire que j'ai pris depuis 2 ans ce qu'on appelle un dixième en Belgique, c'est-à-dire que j'ai une matinée off par semaine. Le mardi matin, il a une de ses thérapies. Là, c'était après l'école, donc on est allé. Et après, il en aura donc 2 le samedi. Une le dimanche matin, qui est du sport, mais qui est pour lui, tu vois, finalement, du sport adapté, etc. Et voilà. Et donc, tu as souvent ce genre de choses où tu fais un espèce de puzzle d'agenda qui est assez prenant. Et puis, tu bosses entre, évidemment, tu bosses full-time et tout ça. Et l'essentiel, pour moi, en tout cas, parce que moi, je m'y fais très bien. J'ai organisé ma vie autour. C'est surtout, en fait, que lui, il ne soit pas submergé, en fait, par les contraintes. C'est surtout, j'allais dire, c'est un travail d'équilibriste, mais tout est une question de routine et ça fonctionne, c'est chouette.
Je reviens sur ton post Instagram que je mentionnais au tout début, parce que je l'ai tronqué, donc là je vais lire la suite. Tu as évoqué une liste de sujets sur lesquels tu aimerais écrire à l'approche des 40 ans, ce que tu appelles la vraie vie. Alors, je te cite entre guillemets. La vraie vie, donc, celle d'après-divorce, du divorce d'ailleurs, de la coparentalité réussie, des enfants et pas forcément des bébés, des relations qui démarrent plus tard, de la carrière, du handicap, des traumas que l'on déterre, de notre rapport au corps, de l'amitié, à cette douce sensation de lâcher prise, de rien à foutre, du regard des autres, des conventions sociales, sociétales, de se connaître enfin, de ne plus être en colère, bordel, c'est reposant. C'est en lisant ce post, hein, je te l'ai dit, je me suis dit qu'il fallait que je t'invite dans What's Next parce que c'est les thèmes que j'aime bien aborder. J'ai la sensation en lisant cette liste qu'il y a une sorte d'apaisement après un tourbillon d'événements ou une certaine mise à distance. Est-ce que les sujets que tu évoques nécessitent un temps de repos ou de digestion pour pouvoir écrire dessus de façon plus posée? Est-ce que maintenant, c'est le bon moment pour écrire dessus?
Ouais, c'est exactement ça, en fait. Je veux dire, pour moi, le début du confinement, le début, tous les lockdowns, ça a été le début du diagnostic officiel. Donc, on savait déjà qu'il était autiste, mais tu avais un diagnostic qui a pris pas mal de temps, qui est très long. Ça a été aussi un petit peu avant. Donc, pareil, le début de mon divorce. J'avais 33 ans, quelque chose comme ça. Ça fait déjà quelques temps. Donc, en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements. Comme beaucoup de gens, j'en ai aussi profité pour me dire « Waouh, c'est quand même une période super chargée. J'ai changé de boulot et puis je me suis dit « Je vais faire une… » Cette sensation, en fait, que j'avais besoin d'apprendre, en fait, à me connaître, tu vois, de un peu qui je suis moi en tant que personne, tu vois, toute seule, pas en couple, pas juste une mère, etc. Le monde est en plein bouleversement. Il n'y a rien de normal en fait. En fait, il n'y a rien de normal nulle part. Ni dans ma vie, ni dans le monde, tu vois, ni dans les médias, en fait, nulle part. Et à ce moment-là, j'ai pris un peu de recul et j'ai fait une thérapie sur vraiment, en fait, le apprendre à me connaître. Moi, en tant que personne, quoi. Et à l'instant T, c'était passionnant. Et oui, ça a pris. Et je créais beaucoup de contenu. J'adorais écrire sur. D'ailleurs, sur pas mal de choses, même si je mettais un peu de recul, qui étaient personnelles. Et j'en étais complètement incapable parce que là, on parlait de choses. Qui, honnêtement, qui méritait, déjà qui ne concernait pas que moi, et qui méritait une, je pense, un temps, tu vois, de, voilà, de repos pour pouvoir en parler. Aujourd'hui, je suis hyper à l'aise de parler de tout ça. Pendant quelques années, je l'étais autour de moi. De là, on parlait, entre guillemets, tu vois, au monde qui te suit, qui te lit sur un malentendu. C'était différent, quoi.
C'était quelle sorte de thérapie que tu as fait?
Eh bien, écoute, un jour, sur une recommandation, j'ai trouvé une psy qui a été assez incroyable. J'en ai parfois, c'est le hasard, quoi. Il n'y a pas de hasard. Et je lui déballe, comme, je lui déballe mon sac, quoi. Tu vois, tout ce que je viens de te dire, mais version dramatique, parce que tu le vis à l'instant T, et derrière, qui, voilà, tout est dramatique. Et je suis assez intense. Et à la fin, elle me synthétise tout le truc. Elle me dit, OK, donc vous voulez apprendre à vous connaître, en fait. Voilà. Et ça a été super, super intéressant. Je l'ai vu, je pense, pendant 2 ans. Et je suis sortie de là, et c'est exactement, tu vois, ce qui s'est passé. C'est comme si elle m'avait appris à synthétiser, ranger dans des boîtes, et puis laisser certaines boîtes derrière, et puis tu repartes un peu plus léger. Et ça te permet, quelques années après, quand il a réfléchi un peu, d'écrire tout ça et te dire, ouais, je suis assez apaisée, en fait.
Bah, c'était un style de thérapie où tu discutes, c'était pas, tu faisais pas que c'était parler.
Elle me répondait. Voilà, ouais. Moi j'avais besoin de ça, j'avais besoin de quelqu'un, si tu veux, qui me répondait, qui me challengeait parfois, ou qui allait dans mon sens, et surtout qui en fin de séance faisait, toi t'as l'impression de partir dans tous les sens, et puis tu fais appel à des trucs plus anciens, etc. Et puis à la fin elle regroupe, et ça fait sens, et ça a été ce genre de personne, elle était incroyable, vraiment incroyable.
J'ai l'impression que j'ai un type de psy assez similaire qui est sur le cap de la fin où tu te dis « Ah bon, mais comment elle appelle ?» Elle se souvient.
Exactement. Les flèches qu'elle a prises, en fait. Parfois, j'ai l'impression qu'elle ne m'écoutait pas, mais je disais « En fait, si !» Et elle faisait des trucs qui faisaient tellement sens, quoi.
Mais c'est assez intéressant, en fait, de dire que… Est-ce que tu as l'impression… Je vais peut-être reformuler ce que tu as dit, mais mm-hmm. quand je t'ai entendu, j'ai eu l'impression que tu y allais parce que tu t'es dit « J'ai besoin de me connaître. » Mais c'est elle, en fait, qui t'a dit « Vous, ce que vous cherchez à faire, c'est chercher à vous connaître. »
Moi, je suis allée parce que j'avais un moment besoin de regrouper un peu tout ça, tu vois, de me dire, OK, il se passe quand même beaucoup de choses. Dans un monde, en plus, tu vois, de pandémie, moi, j'ai vécu quand même le lockdown avec un petit garçon, autiste, tu vois, il n'y avait pas d'école, enfin, c'était, je me suis dit, waouh, ça va être complexe, quoi. Je bossais évidemment full-time. J'expérimentais la garde alternée, c'était pas évident. Et même si j'ai toujours eu l'habitude d'être loin de ma famille, c'était vraiment pas évident. Et c'est vrai que moi, je vais déballer tout mon sac, quoi. Mais littéralement, en fait. Et tu dis, OK, de toute façon, elle est payée pour, vas-y, je peux tout dire, quoi. Mmh. C'est bon. Là, je garde plus rien. Et c'est elle qui a sorti. Et c'est vrai que ça a été très limpide, ce côté apprendre à te connaître. Parce qu'il y a un moment, même si tu avances, et je pense qu'il n'y a pas d'âge, hein, pour ça, tu vois, c'est dans la trentaine, dans la quarantaine. Moi, je suis persuadée que tu as des gens qui finissent leur vie et qui ne se connaissent toujours pas. Et parce qu'ils n'ont jamais été seuls, parce qu'ils n'ont jamais posé la question, parce qu'ils n'ont jamais voulu se la poser. Et vraiment, c'est hyper, enfin, c'est nécessaire de se regarder et dire, OK, je vais faire connaissance avec moi-même. Et en fait, ça te fait gagner beaucoup de temps et beaucoup de sérénité de le faire.
C'est marrant que tu dises que ça te fait gagner du temps, parce que moi, quand je t'entends, tu me dis, tu as parlé de 33 ans où il y a le début du lockdown et tout ça. Tu commences la garde alternée, donc je suppose que tu étais peut-être en instance de divorce ou déjà séparée. Mm-hmm. Est-ce que tu n'as pas fait ta crise de la midlife à 33 ans, finalement?
Peut-être. Est-ce que c'était une crise? Peut-être. Ouais. Bah, je pense que oui. D'un point de vue extérieur, tu as peut-être des gens qui pourraient dire, écoute, c'est quand même une crise. Là, tu remets tout, entre guillemets, ton équilibre en question. Ça peut l'être. Et après, en même temps, ça ne ressemblait pas du tout à une crise. Parce que même sur le coup, bah, même si tu peux avoir un divorce apaisé, un divorce, je déteste ce mot, un divorce réussi, c'est pour moi parfois juste une étape en fait de la vie. Je pense que le monde est en midlife crisis et que moi, malheureusement, mon agenda personnel, tu vois, s'est greffé à un moment compliqué. C'était plutôt ça, tu vois. Tout est arrivé au même moment et c'était, tu vois, le diagnostic de mon fils, le Covid, mon divorce, bah, tout est arrivé en même temps, quoi. Donc,
Pourquoi t'aimes pas ça, divorce réussi, comme expression?
parce que souvent, alors ce qui est fou, c'est que nous, on y dit souvent, ah, c'est génial, alors vous avez loupé votre mariage, mais réussi votre divorce. Et je me dis, mais non, pas du tout, tu vois, j'ai pas l'impression d'avoir loupé mon mariage. Moi, je suis restée une dizaine d'années avec quelqu'un. Je l'aurai toute ma vie dans ma vie et je suis super contente de ça. C'est un super humain, c'est un super papa, c'est un super ami. Je pense que c'est vraiment quelqu'un que je respecte, mais tellement fort. Et je pourrais en dire que du bien, tu vois. Et donc, je me dis toujours, ben, parfois, tu as des mariages qui doivent se terminer parce que les gens, ils sont plus heureux dans leur... T'évolues, hein, une dizaine d'années et dans des trajectoires différentes. Et c'est aussi ça, en fait, réussir parfois son mariage, c'est justement pas se détester. Et donc, j'aime pas, tu vois, cette formule-là qui est un peu, tu loupes un truc. C'est jamais très positif, hein. Et OK, mais en soi... Je pense qu'on a juste réussi à la fin un mariage en faisant en sorte que les choses se terminent peut-être au bon moment ou que... et surtout d'avoir une coparentalité, tu m'as réussi.
Ouais, je me dis que c'est l'étape d'après qui compte aussi, de savoir comment tu vas continuer
Exactement.
d'élever un enfant à
Mais oui.
deux.
Mais c'est plus important en fait, complètement.
Il y a eu récemment, enfin en tout cas j'ai lu récemment, que ce soit des articles de blogueuses connues comme par exemple Cup of Joe aux États-Unis ou une journaliste qui s'appelle Virginia Saul Smith qui ont parlé de leur divorce, ou j'ai lu un livre de Son nom m'échappe, mais je le retrouverai. Voilà, je viens de lire un livre où en fait l'autrice parle de son divorce. Splinters, c'est le livre. J'ai l'impression que c'est un thème, alors peut-être que ces livres arrivent comme ça. Bon, c'est des gens assez connus, mais j'ai l'impression que c'est un thème qui commence aussi à être beaucoup plus dit, en fait, que des femmes racontent leur divorce, même si c'est un peu juste en termes d'âge, et peut-être je me focus trop sur ça, ça arrive plutôt dans la quarantaine, quoi. C'est plutôt
Bien
quelque chose
sûr.
que tu vas faire plutôt après, quoi. Toi, c'est arrivé, toi, dans ton cas, c'est arrivé plus tôt, quoi.
Mais c'est peut-être aussi parce que tu as des gens qui se mettent en couple plus tard. Moi, j'ai été mariée 24 ans. Et donc, au bout, ouais, donc je t'en parle d'une dizaine d'années. Voilà, tu vois, après, ça fait évidemment que tu arrives à 32, 33 ans, quelque chose comme ça. Je sais pas quel âge j'avais, 32, 33 ans. Et donc, évidemment, si tu rencontres ta compagne plus tard, tu vois, les choses vont arriver peut-être plus tard, c'est aussi ça. Et c'est souvent après une dizaine d'années. Je pense qu'on parle de plus en plus de divorce. Un, parce que tu en as beaucoup de plus en plus. Deuxièmement, parce que tu as quand même des gens avant nous qui l'ont un peu déculpabilisé, qui en ont parlé, qui ont un peu ouvert la voie et qui font qu'aujourd'hui, même si je t'avoue que c'est vraiment pas un sujet facile, moi j'ai pu parler d'endométriose, de PMA, de fausse couche, de ce que tu veux. Oh, j'ai vraiment pas de tabou. Celui-là, il était beaucoup plus difficile à aborder, beaucoup plus intime, et pas autour de moi, tu vois. J'ai toujours été assez libre sur ce sujet, parce qu'encore une fois, quand t'en parles, tu n'inclus pas que toi. Tu inclus ton ex-compagnon, sa femme, mon compagnon, nos enfants, tu vois. Et ça fait beaucoup de monde, et je pense que d'avoir un peu de recul parfois, d'avoir les bons mots et d'éviter surtout, et c'est super important d'aller flinguer un équilibre, tu vois, qui existe sur une prise de parole. Je pense qu'il faut quand même, voilà, prendre un peu de temps et un peu la mesurer, quoi.
Oui, c'est vrai que souvent, t'entends qu'un côté. En tout cas, moi, quand je lis
Ben
ces
ouais.
articles ou ces livres,
Oui.
t'entends qu'un seul côté, quoi. Et c'est drôle que tu dises ça, parce que moi, on a une relation parasociale, parce qu'on se connaît comme ça, par écran interposé, où à un moment, je me suis dit, tiens, c'est marrant, Anouchka, elle parle plus de son mec, enfin, il est plus là, quoi. Et après, je me suis dit, bah, visiblement, ils sont séparés. C'est quelque
Non,
chose.
j'en ai jamais parlé. Et attends, je trouve ça tellement bizarre. Attends, moi j'ai vu des gens pas connus du tout, pas spécialement exposés, mais qui faisaient des annonces, littéralement, tu sais, comme des annonces de maternité, des annonces de divorce. Et je me dis, mais Enfin, moi, j'avais pas envie, quoi. Tu vois, je pense que. Et sûrement lui non plus, tu vois. Les gens l'ont compris, les gens l'ont vu. Mais je pense qu'on n'avait pas forcément envie de. Oh, c'est compliqué, comme je disais, de trouver une manière d'en parler. Et pour moi, ça mérite. Comme aujourd'hui, en fait, j'ai pas besoin d'exposer mon équilibre familial aujourd'hui. Pourtant, il est serein, il est apaisé, il est super positif. Et parfois, quand il y a un anniversaire, tu vois, c'est un chouette événement et donc et j'en parle, par exemple, l'anniversaire de mon fils. Mais aller exposer notre équipe familiale, non, parce que je me dis toujours, qu'est-ce que ça apporterait de plus? C'est peut-être un bel exemple d'ailleurs, ça peut, et j'aime bien en parler de temps en temps, mais pas plus. Moi, tu vois, je protège vachement ça.
Mais je pense que c'est vachement dur de savoir qu'est-ce qu'on partage. Il y a un mot valise
Mais
horrible,
ouais.
le sharenting,
Oui,
sharenting, de
oui,
partager
ouais.
sur la parentalité.
Ouais.
Moi, tu vois, je ne partage pas, il n'y a pas de photo de moi quand j'étais enceinte, je ne partage pas le prénom de ma fille, il n'y a pas de photo.
Pareil.
Hein. Et pourtant, tu vois, il y a plein de choses, je vais plus écrire sur certains des thèmes, mais il y a quelque chose qui me bloque où je me dis non, mais c'est voilà, ça implique quelqu'un d'autre.
Complètement. Moi, voilà, le visage de mon fils n'est pas exposé, son prénom n'est pas exposé. Et ça a toujours été le cas. Et d'ailleurs, tu vois, quand j'ai accouché, j'avais une personne que je connaissais sur les réseaux sociaux via mon blog qui m'avait ajouté sur Facebook. C'était très rare que j'accepte. J'ai accepté parce qu'on s'était déjà vu en vrai. Et quand moi, voilà, à l'époque, il y a 7-8 ans, Facebook était très privé. Et je pense que c'était via mon ex-mari ou via moi, je ne sais plus. Le prénom de mon fils est sorti dans une annonce de naissance. Puis on vivait à l'étranger, tu connais ça. Parfois, c'est compliqué voilà, d'informer beaucoup de gens en même temps. Et ça pouvait être. Je pense que ça a été fait à ce moment-là. Et j'ai vu que quelqu'un a annoncé. Alors, tu vois, j'avais une petite audience. La naissance de mon fils, le prénom de mon fils sur Twitter, j'étais là. En fait, moi, je n'ai pas envie de ça, tu vois. J'ai pas envie qu'on connaisse son prénom, j'ai pas envie qu'on connaisse son visage, j'ai pas envie de tout ça. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'ai une barrière qui me bloque énormément d'aller. Parce que, en fait, je pense qu'il détesterait ça accessoirement. Et comme il ne peut pas l'exprimer, moi, je ne le fais pas.
Ouais, après, il faut suivre justement ce que son instinct, je ne sais pas si c'est de l'instinct,
Exactement.
mais son intuition,
Ouais,
notre
ton
protection.
intuition te dit.
En 10 ans, je t'ai vu vivre d'abord dans la banlieue de Washington, DC.
Ouais.
Puis, tu as déménagé à Londres et maintenant, tu t'es installé à Bruxelles. Est-ce que tu peux revenir sur les facteurs qui ont fait à chaque fois que tu as changé d'une ville à l'autre?
Alors, c'était professionnel, en tout cas, la motivation. Alors, la motivation, oui, c'était. Donc, j'ai fait mes études de communication en France, qui ne me permettaient pas faire d'échange à l'étranger, etc. Moi, j'ai fait vraiment de l'alternance pendant 5 ans, de première année à ma 5e année en grande école. Et donc, je savais que pour partir à l'étranger, il fallait que j'ai un contrat vraiment à l'étranger. Et donc, j'ai fait ce qu'on appelle un VIE. Tu dois en connaître, évidemment, comme on fait aux États-Unis, qui est un contrat, en fait, que tu peux avoir entre 1 an et 2 ans selon les visas du pays pour travailler à l'étranger. C'est super chouette condition. Et souvent, en fait, des boîtes françaises implantées à l'étranger. Moi, j'en ai trouvé un donc en Virginie, à côté de Washington. Donc, pendant 18 mois, j'ai embarqué donc mon ex-mari avec moi sous un visa, spouse visa, tu vois. Et à la suite de ça, on m'a donné l'opportunité. On ne souhaitait pas rentrer. C'était un peu, on avait un peu lancé des balles partout, mais en tout cas, voilà, retourner en France, ce n'était pas une option. Et mon boulot, mon ex-mari pouvait se permuter assez facilement. Il travaillait pour Apple à l'époque. Et donc il m'a suivi aussi pareil. On s'est fait muter donc à Londres. On est resté pendant 5 ans. Et puis il y a eu le Brexit. On s'est dit vaut mieux voilà. Puis je pense qu'on a eu un instinct pareil encore une fois de se dire je sais pas. On était parents, ça faisait. On l'a eu à peu près après les 6 mois de mon fils de se dire en fait il faut pas qu'on reste là pour lui. Je sais pas. Il tombait malade. On sentait un truc. Peut-être que inconsciemment on est assez intuitifs tous les deux. On s'est dit l'autisme là-bas ça va être foireux. Le Brexit, tout ça mélangé. C'était le moment de partir. On s'était dit Bruxelles-Amsterdam. On revient sur le mainland, quelque chose d'assez kid-friendly, vert. Le boulot nous a amené à Bruxelles. On est resté à Bruxelles, quoi. Tu vois, ça a toujours été un petit peu opportunité. On a cherché les opportunités. Puis il y avait cette envie de. Puis après Bruxelles. Et puis Bruxelles, je pense qu'on ne sait plus vraiment. Et pour moi, je continue de travailler à l'étranger. Donc moi, je suis toujours 3-4 jours par semaine, de toute façon, en Angleterre. Je travaille toujours à Londres aujourd'hui. Donc voilà, je suis un peu en Hollande, beaucoup en Angleterre. L'idéal aujourd'hui, c'est d'avoir mon endroit quelque part et de continuer à bouger tous les mois, quoi.
Oui, je ne savais pas que tu voyageais autant. Mais c'était l'une de mes questions aussi. C'est en fait, tu parles assez peu de ton travail. Je sais que tu travailles dans la communication. C'est ma compréhension de ce que tu fais.
Ouais,
Mais tu
plein
t'as,
de fois.
je ne sais pas en fait ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais, Anouchka, dans la vie?
Alors, je m'occupe aujourd'hui donc de pour l'Europe du Nord, dans une donc grosse boîte, j'allais dire d'alimentaire de marque que tout le monde connaît, donc de médias, de publicité, de communication et maintenant d'une partie qu'on appelle plus CSR, donc sustainability RSE, je pense en français. Donc voilà pour ces marques-là. Donc je suis sur ces trois sujets. Et je le fais donc pour le. Moi, je suis basée à Bruxelles, donc je le fais pour le Benelux, mais aussi le UK et toute la partie Nordics. Donc, ça m'amène, tu vois, à bouger. J'ai aussi, donc, typiquement, manager est en Angleterre, et donc une partie de l'équipe est en Angleterre, une partie est un peu partout. Donc, généralement, je passe. D'ailleurs, je pars bientôt, je repars là. Je passe 3 jours par semaine à Londres, à côté de Londres. Et pareil, je devrais être normalement pareil 2 jours, tu vois, aux Pays-Bas aussi par mois.
Et c'est le même job que tu avais à Washington qui t'a suivi à
Non.
Londres et maintenant à Bruxelles, non?
Non, en fait, j'ai eu le même employeur à Washington, à Londres. Je l'ai eu un petit peu à Bruxelles et j'ai décidé de partir parce que je sentais en fait que Bruxelles était assez différente de Londres et Washington. C'est-à-dire que Bruxelles, j'étais vraiment dans un environnement très très global avec des gens partout dans le monde et très très peu de connexions locales, ce qui est parfaitement OK quand tu bosses dans des villes aussi internationales. Bruxelles l'est, mais tu as vraiment besoin en fait, si tu veux faire un réseau, de sortir un petit peu de ça. J'ai pris cette décision et puis j'en avais envie après quelques années de changer de secteur aussi. Et j'étais dans un secteur plus tout ce qui était voilà, industriel, telco, qui voilà, j'en avais fait le tour. Et c'était une super expérience qui m'a envie de plein de trucs. Et donc voilà, je garde ce côté qui est très international, qui me permet de bouger, où je travaille toujours en anglais, où je suis entourée de plein de nationalités différentes. Donc c'est un peu le meilleur des deux mondes pour moi aujourd'hui, clairement.
C'est un travail qui te correspond, qui te satisfait?
Oui, parce qu'en fait, il me permet déjà de pouvoir continuer à avoir cette flexibilité en termes de. Je veux dire, cette flexibilité, cette ouverture culturelle, ce qui est passionnant. C'est passionnant de pouvoir travailler sur plusieurs pays. C'est passionnant d'être sur des sujets aussi différents que la publicité, la communication corporate. Et là, j'ai donc repris cette partie plus CSR depuis quelques temps. J'apprends énormément. Et donc. C'est stimulant intellectuellement parce que tu es tout le temps en train d'apprendre de nouvelles choses. Je te donne un exemple. Dans le cadre de mes nouvelles fonctions, j'ai repris aussi une partie diversity inclusion. Et donc, il y a 10 jours, j'ai été formée sur comment en fait faciliter la fraise la fraise de la diversité. Et donc, sur des sujets qui, moi, me passionnent, mais sur lesquels je peux aussi en fait animer en entreprise parce que bon, ma boîte me permet de le faire. Je fais des ponts assez hyper intéressants en fait entre le handicap et mon entreprise. Justement, comment former les gens en interne à mieux accueillir, tu vois, des collègues en situation de handicap, faire venir des partenaires externes, mais aussi lier des institutions avec des enfants justement autistes, mais parfois surtout avec des handicaps cognitifs, et d'aller permettre à tout le monde d'aller faire du bénévolat et mieux comprendre. Tu as tout ça? Bien sûr, j'ai des aspects qui sont beaucoup plus, j'allais dire, de publicité classique, tu vois, ou de sujets qui vont être un petit peu moins comme ça créatifs. Mais ces sujets-là, on me permet de les faire et c'est quand même, je trouve que moi, en tout cas, c'est hyper épanouissant, vraiment.
Quand tu parles de diversité, c'est le handicap principalement.
Pas que. Alors, pas que. Vraiment, tu vois, quand on a été formé à la fraise de la diversité, l'idée était d'apprendre aussi énormément sur. Tout ce système, tu as de concepts de biais, de discrimination, tu as de discrimination sur le genre, de discrimination en fait sur les orientations sexuelles, de racisme, tu vois, de handicap. Donc pas que, et vraiment diversité au sens large.
J'ai l'impression que c'est un sujet aux États-Unis, alors peut-être pas partout aux États-Unis, mais moi, dans les endroits libéraux où je vis, c'est des sujets qui sont assez à la pointe et que peut-être en Europe, c'est en train d'arriver. Peut-être parce que tu bosses. Est-ce que c'est une boîte internationale pour laquelle tu bosses?
Une boîte internationale qui est une boîte à la base française. Par contre, c'est des sujets, je pense, sur lesquels ils sont quand même vraiment lead parce que ce ne sont pas en fait des sujets optionnels. Tout le monde va suivre cette formation. Et c'est des sujets qui sont vraiment pris au sérieux. Alors, ouais, et là, je te rejoins avec, pour moi, avec ce que j'ai vécu aux États-Unis ou en Angleterre, d'ailleurs, je viens plutôt anglo-saxon, avec un peu cette dynamique, tu sais, très anglo-saxonne autour du D&I que tu peux connaître. Et qui est peut-être assez... On commence à en entendre parler en Europe, mais évidemment, on commence. Voilà, on en parle, on commence, c'est quand même beaucoup moins développé, je trouve, que quand tu vas aux États-Unis, en Angleterre.
Mais tu as l'impression que les publics, les gens avec qui tu travailles sont réceptifs sur ces sujets?
Ouais, bien sûr. Et en fait, c'est assez étonnant, bien sûr. Et après, ça reste toujours... ça reste des sujets qui sont quand même assez confrontants, hein, pour certaines personnes. Et voilà, c'est sur des publics... tout le monde, c'est pas le sujet numéro un pour tout le monde. Maintenant, si tout le monde, quand même, autour de moi, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui sont super intéressés par ces sujets-là. Ce qu'on oublie aussi, c'est que généralement, je l'ai vu avec le handicap, tout le monde ne parle pas, en fait, de handicap, par exemple. Tout le monde ne parle pas de discrimination parce que tout le monde n'a pas envie d'en parler. Parfois, les gens viennent te voir en one-to-one, en privé, et viennent échanger sur le fait que, eh ben, dans leur famille, tu as une personne en situation de handicap, que eux ont, par exemple, tu vois, se viennent d'une famille multiculturelle, etc. Et donc, souvent, les gens sont assez discrets sur ce qu'ils vivent, mais ça ne leur empêche pas de connaître et d'expérimenter aussi les choses, quoi.
Mais parfois, j'avais eu j'ai eu beaucoup de discussions sur ces sujets. Et des fois, on me dit le fait de nommer, que certaines personnes n'aiment pas même dire le mot. Tu sais, comment est-ce qu'on dit que quelqu'un est handicapé, que c'est même un mot qu'on va éviter
Ouais,
de prononcer,
c'est
pour
vrai.
dire que voilà, que c'est presque un mot qui gêne. Et qu'en fait, quand on passe la barrière de le dire, c'est déjà une première étape, quoi.
Ouais, et après, ça te fait la... Tu vois, c'est un peu... Donc, après, tu se posais la question de se dire, donc, est-ce que tu dis personne autiste? Certains des gens qui vont dire personne avec autisme, c'est... Et même des thérapeutes, hein, des professionnels, personne sur le spectre autistique. Le mieux, c'est quand tu poses la question à des personnes autistes, elles vont dire, généralement, mais non, enfin, moi, je suis autiste. On va peut-être éviter de... Tu vois, il n'y a pas de problème. Ça fait partie de toi de dire, je suis autiste. Tu n'es pas une personne atteinte d'autisme, tu n'es pas une personne avec autisme, tu n'es... Oui, sur le spectre, parce que je leur dis ça, mais non, ça c'est long quand même, hein, une personne sur le... Tu vois. Et donc, je te fais un parallèle encore différent. C'est comme les gens qui disent, mais non, je ne peux pas dire que quelqu'un est noir, je vais dire qu'il est black. Non, non, tu peux dire qu'il est noir, en fait. C'est... Voilà, tu peux dire qu'il est noir, c'est pas une insulte. Et donc, c'est souvent ça aussi, je pense, parce que... Et c'est pas, encore une fois, je pense que c'est dans un souci parfois de ne pas heurter et de bien faire. Hein. Donc faut pas le. Mais c'est peut-être plus aussi sur l'éducation et c'est plutôt bienveillant.
Oui, de toute façon, ça touche à plein de sujets. Je pense aussi au mot gros ou le
Mais
mot vieux,
oui.
même le mot vieux, quoi,
Mais
d'ailleurs.
ouais. Exactement. Donc une personne grosse, c'est pas une insulte. Donc tu peux une personne grosse, tu vois, c'est pareil. Tu as donc et alors quoi, tu vas dire une personne ronde, une personne enrobée. Enfin moi c'est pas possible quoi. Donc, et le mieux encore une fois, et le mieux avec le handicap, poser la question quand c'est possible à des gens concernés et ils le prendront toujours bien de dire ok en fait c'est quoi tu vois le terme approprié et ok c'est bon tu vois tu t'éduques c'est chouette et puis au moins tu le sais c'est le plus quand c'est possible. Voilà quand c'est possible de se poser la question.
Est-ce que vous êtes parti pour rester à Bruxelles? J'ai l'impression que tu aimes beaucoup cette ville. Est-ce que c'est un
Écoute, j'ai
choix?
divorcé ici. Alors déjà, je veux dire, alors tu vois, regarde, il y a un sujet sur l'expatriation dont on parle assez peu, c'est le divorce. C'est une question qui se pose hein, quand tu divorces et que tu es en expatriation, parce qu'à un moment, il faut se dire, est-ce que tu restes ici ou est-ce que tu t'en vas? Déjà, nous, on avait nos boulots ici. On avait aussi, et après, nos compagnons et compagnes qui sont belges. Merci du cadeau clientèle, la Belgique. On a été très bien accueillis. Donc aujourd'hui, si on bouge en groupe en fait. Hein. Mon fils a une petite sœur, tu vois. Enfin, donc ce serait quand même un petit peu compliqué. Mais la question se pose en fait quand tu divorces et que tu es en expatriation, tu as deux choix. Tu as des gens qui rentrent entre guillemets à Paris. C'est pas hyper facile. Enfin, je te dis à Paris, mais ça aurait pu être mon cas ou ailleurs. Ou alors tu décides de rester sur place. Mais en fait, si tu fais ce choix-là, tu restes. Donc non, moi je me sens super bien ici et c'est pas du tout un choix par défaut. Donc ça c'est parfait. Mais la question s'est posée. Donc non, moi aujourd'hui j'ai investi ici, j'ai mon boulot ici, je suis bien ici, j'ai mon compagnon voilà, qui est belge, la femme de mon ex-mari est belge. Donc, pas trop de sens, tu vois, à bouger en tout cas dans un futur proche ou moyen terme, quoi.
C'est mal de penser que quand tu dis que tu es en expatriation en Belgique, j'ai du mal à voir que c'est une expatriation. Parce que tu sais, moi j'ai grandi dans le Nord
Oui.
J'ai l'impression que c'est que la Belgique, c'est à côté, quoi.
Ouais, mais t'imagines, moi, le truc, c'est que je suis partie à 12 ans. Je suis très peu revenue en France. En fait, je pense que je ne suis pas allée à Paris. J'ai grandi à Paris. C'est vraiment la ville dans laquelle j'ai grandi. Je me suis mariée, j'ai fait mes études. Écoute, j'y suis pas allée depuis 2 ans. Je ne suis jamais. C'est vraiment. En fait, pour moi, c'était vraiment hyper dépaysant parce que après les États-Unis, après l'Angleterre, c'était tellement dépaysant, Bruxelles. Je t'assure, c'était. C'est une slow life très particulière par rapport à tout ce que, en tout cas, moi, je vivais avant. Et donc aujourd'hui, comme je retourne très peu en France, tu vois, je vais chez mes parents, mais mes parents, c'est pas pour moi, c'est pas la France, quoi. C'est chez mes parents. Et donc voilà, c'est très peu de temps. Je passe très 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 peu de temps en France, en fait. Donc c'est après 12 ans, ouais, si, c'est toujours une expatriation, c'est très particulier.
Okay. Est-ce que tu fais toujours du yoga? C'est comme ça qu'on s'est rencontrés au départ. Je
Mais
sais pas si tu
oui, on avait même fait un challenge de yoga, rappelle-toi.
Il y a
Ah ouais, je
longtemps,
me
il y a
souviens.
longtemps.
Je
Toi,
fais toujours
toujours.
du yoga, ouais. Ouais.
Tu as une préférence pour un yoga en particulier?
Ouais. Écoute, au début, moi j'ai commencé par. Tu sais, aux États-Unis, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais tout était un peu hot yoga. Même un vinyasa était un peu hot. Il fallait que les gens transpirent, on m'avait expliqué ça. Il faut qu'ils aient l'impression. Ça m'a. Donc j'ai un peu commencé par là. J'ai fait toutes sortes de yoga. Aujourd'hui, j'ai. Après, par une dizaine d'années, maintenant je contrebalance un peu, c'est-à-dire que je garde plutôt un yoga, donc soit du yin, soit du nidra, soit du sun healing, tu vois, plutôt cette pratique-là, et même des pratiques qui vont même un mix de stretch et du hot yoga, des trucs très
Plutôt une pratique calme pour ceux qui ne connaissent pas
très
les.
calmes, voilà, des choses très très calmes ou du hot yoga. Par contre, je mixe avec pas mal aussi de séances en salle pour quelque chose de cardio en fait qui me manquait avant. Et donc je vais moins des cours dynamiques et je me focus uniquement sur des pratiques presque plus énergétiques en fait que quand je vais au studio. Ouais.
T'as pas l'impression maintenant que tu as 38 ans que ton corps a changé, que tu
Non.
ne peux plus faire certaines choses?
Non. Franchement, non. Attends, moi j'ai une meilleure hygiène de vie que quand j'avais une vingtaine d'années. Mon hygiène de vie, je vais être honnête, était catastrophique. Vraiment catastrophique. Et donc, mais non, en fait, j'ai un meilleur cardio comme jamais, vu que j'en faisais pas vraiment avant, tu vois, donc au moins il pouvait pas être bon. Je fais du sport depuis tellement d'années maintenant que, au contraire, là où tu vois que ton corps change, encore moi, tu vois, la partie grossesse, elle est quand même, ça fait quand même 8 ans, donc tu vois, c'est quand même quelques années. Et encore, après le postpartum, voilà, les choses, je le vois pas tant que ça, j'ai pas non plus de. J'allais dire d'after effect si fort que ça. Donc non, je ne le vois pas. La seule chose, je vais être très honnête, où tu le vois un peu plus sur le corps, c'est peut-être ta capacité de récupération, comme beaucoup de gens. Moi, j'ai besoin de dormir, en fait. Tu vois, j'ai besoin de me lever tôt, j'ai besoin de dormir, je ne récupère pas non plus comme tout le monde hyper bien. J'ai un gamin qui n'a pas fait ses nuits pendant des années. Mais par contre, en termes vraiment physiquement et de sport, mais ça va arriver, hein, tu vois. Je faisais un examen hormonal et je posais encore cette question, on en est où sur la préménopause? Donc j'y suis pas encore. Mais elle fait mal quand même. Tu vois. Je sens par exemple, tout bête, et même si de quand même faire attention, tu vois, à mon hygiène de vie de manière générale, à ce que je mange, au sport que je fais, etc. Pour ma santé, mais aussi pour mon corps et pour moi-même. À 30 ans, oui, bien sûr, je le faisais, mais ça n'a pas vraiment d'impact. Tu vois. C'est pas...
Oui,
Voilà.
c'est ça, je pense. Oui, c'est
Non, tu le
l'impact.
sens quand même. Ouais, l'impact. Ouais.
J'ai une petite question pour finir. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les 2-3 prochaines années? Un grand projet professionnel, un voyage, quelque chose d'un peu exceptionnel, quelque chose d'un peu secret, tu vas quand même me dire.
C'est une bonne question. Tu sais quoi? On m'a posé la question justement pendant une formation. Eh bien, je vais dire un truc hyper exceptionnel chez moi. Ce serait quelque chose, 2, 3 années. J'aimerais bien vivre 2, 3 années calme. J'ai tellement vécu, tu vois, de choses un peu dingues. Je les vis toujours. Je me lance toujours des nouveaux. Je dis ça, je me lance des nouveaux projets tout le temps. Le dernier, c'était d'acheter mon appart. Ça m'a tenu en haleine et je suis persuadée que je vais me relancer dans une connerie d'ici pas longtemps. Mais j'aimerais vraiment bien chaque année choisir un mot. Et le mot, en fait, j'en avais deux. C'était aussi donc vraiment quelque chose sur la sérénité et sur les fondations. Et donc pendant 2 ans, ce serait chouette, tu vois, que ce soit calme. Calme et serein, ce
Mais
serait
tu sais, là,
parfait.
en te parlant, là, ça fait 45 minutes qu'on discute, j'ai une sensation de calme, rien qu'en parlant avec toi. Je trouve que tu dégages un certain calme.
Écoute, pourtant, il est 20h30, j'ai bossé toute la journée, j'ai fait des embouteillages, j'ai un rendez-vous de pédopsychiatre, mais qui était super agréable d'ailleurs.
Mais il y a quelque chose de grandé.
Oui, et c'est le mot, tu vois, de, ouais, si tu peux me dire ça dans les deux prochaines années, c'est continuer à... J'ai pas envie d'exceptionnel, en fait, du tout. Et ça arrivera, parce que tu vois, l'exceptionnel arrive, et tant mieux. Mais si je peux arriver, justement, à avoir beaucoup de calme, et, ça pourrait être super chouette, et ce qui me permettra d'apprécier encore plus les super opportunités. Et plein, ouais, des beaux voyages, ça, c'est sûr. Je rêve de me faire quelque chose en Inde. J'aimerais vraiment bien, justement, pour approfondir, tu vois, le cas sur le yoga, avec une de mes profs de yoga qui est indienne et qui donne des retraites là-bas. Ça, ce serait vraiment un projet que j'aimerais mettre en place, par exemple.
J'aime bien le « j'ai pas envie d'exceptionnel », quelque chose de…
Tu sais qu'il y a un mot qu'on m'a appris en masse, je crois qu'on utilisait beaucoup en cours, c'était l'infraordinaire. Tu sais, au contraire d'extraordinaire, on l'emploie jamais. Il est très chouette, ce mot. Et c'est un petit peu… Je l'aime beaucoup et j'aimerais bien développer, en fait, tu vois, l'infraordinaire. C'est bon, moi, je veux plus de pandémie, plus de divorce, plus de… tu vois, pas de mariage, pas de tout. Ça me va bien.
C'est cool. C'est ce que je te souhaite, alors, Anouchka, une vie infraordinaire.
Infraordinaire, voilà, on retiendra ça.
Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
Merci à toi pour l'invitation, surtout.
Et voilà, c'était bien, non ? Rendez-vous sur whatsnextmathilde.substack.com pour découvrir tous les contenus What's Next, la newsletter, les podcasts bonus. En ce moment, j'ai une série spéciale qui s'intitule « Licencié ». Et puis, ça vous donne accès aussi à l'atelier d'écriture. C'est à vous aussi d'écrire, de vous livrer pendant ces 2 heures d'atelier tous les derniers mardis du mois. Voilà, si ce podcast vous a plu, je vous invite aussi à laisser une revue. Pourquoi pas juste le noter aussi, 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcasts. Et puis, partager cet épisode à quelqu'un qui pourrait être intéressé par tous les sujets dont on a parlé avec Anouchka. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci aussi de faire connaître What's Next autour de vous. À très bientôt.